RCF.
Et nous vous retrouvons Benoît Tinetti, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de publier l'ouvrage Lazare, le Ravi, aux éditions du Cerf. Vous êtes prêtre du diocèse de Paris en mission à Lille. Et vous nous aidez à comprendre finalement ce que c'est la vie avec le Christ. Alors, grande question, mais à travers le personnage de Lazare, on traverse avec lui finalement ses expériences de vie, avec notamment cette illusion de ce que Lazare pensait être la vie. Vous le disiez dans la précédente émission, il a goûté aux rencontres, il a goûté aux amours, il a goûté aux moments de fête. Comment est-ce qu'il a réussi, après sa rencontre avec le Christ, à percevoir autre chose de la vie ?
Oui, ça a été, enfin, dans le livre en tout cas, ce que mon imagination, disons, me fait écrire, c'est que ça a été un chemin aussi pour lui, un combat. Le problème, c'est que notre existence est une succession aussi de morts à nous-mêmes, de morts à un certain nombre de rêves ou de fantasmes, et d'acceptation, non pas de soumission à la réalité, mais d'acceptation que la réalité soit le cadre dans lequel notre vie doive se dérouler. Et non pas que notre vie se déroule dans une réalité qu'on va inventer pour nous. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que...
Mais pourtant, tout nous appelle à rêver. Combien d'injonctions nous invitent à réaliser nos rêves ?
Parce que je pense, si vous voulez, qu'on est soumis beaucoup à cette injonction qui nous dit « Tout ce que tu voudras entreprendre sera possible. Voilà. Sinon, t'es un nul. » En gros, si t'as pas été capable de faire ce que tu voulais faire, t'es pas un bon. Voilà. Ce qui est juste, en fait, effroyable comme injonction. Alors que la réalité de la vie, c'est de voir quelle est la réalité dans laquelle on est posé, on est situé, et comment développer cette réalité pour la rendre plus ouverte, plus belle, plus grande. Mais il s'agit pas de créer une réalité, il s'agit d'accepter une réalité qu'on peut certes transformer, modeler, dans laquelle on peut agir. Mais cette idée qu'on serait placé dans une espèce de capacité infinie à créer notre propre réalité est totalement débile. Et c'est une source, à mes yeux, de beaucoup de malheur pour nous tous, collectivement comme personnellement.
Mais vous n'êtes pas en train de nous dire que le chrétien n'a pas d'ambition ?
Non, la grande ambition du christianisme est de rendre Dieu présent et visible dans le monde réel. Voilà. Et non pas de créer un monde dans lequel Dieu soit rencontrable. Voilà. Il ne s'agit pas de créer une société distincte de la société actuelle, de fabriquer une espèce de réalité qui n'existe pas. Vous voyez ? Non, nous, on a à être les porteurs de la présence du Christ dans le monde d'aujourd'hui.
C'est aussi un beau défi, c'est vrai, c'est ambitieux.
Mais c'est essentiel, sinon on se ferait qu'une logique de secte. Le risque, c'est que si on prend une autre option et qu'on se fabrique un monde cohérent pour nous-mêmes, on devient une secte comme les autres. Vous voyez ? Quand Jésus naît, il ne naît pas dans un monde que Dieu a reformaté pour la naissance de son fils. Vous voyez ? Et Jésus, il naît dans une société à Bethléem ou à Nazareth, il grandira dans un monde, dans un pays qui est en ruine, qui est occupé, dans un monde qui est en plein bouleversement, un peu comme le nôtre finalement, où les empires se font la guerre pour savoir qui aura la domination, les Romains semblent l'avoir emporté à l'époque de Jésus, où les cultures se mondialisent de manière extrêmement importante, et il naît en plus Jésus à un carrefour géographique de toutes les grandes routes commerçantes. De l'Orient vers l'Occident, du Sud vers le Nord. Et donc, le pays dans lequel il naît, la région dans laquelle il naît, Nazareth, la Galilée, le carrefour des nations, comme on l'appelait dans l'Évangile, c'est le carrefour des nations. Il naît, il grandit enfant au milieu d'enfants de son âge, de familles qui sont des Grecs, des Égyptiens, des Babyloniens, des Perses, des Phéniciens, des Romains et des Juifs. Et donc, il rencontre des gens qui croient en Zeus, en Isis, en Jupiter et en Dieu Tout-Puissant.
Oui. Alors, vous n'êtes pas parti si loin que ça du thème parce que vous évoquez finalement aussi la question de l'illusion. Dans votre livre, elle prend l'aspect d'un petit récit, à l'intérieur du récit, puisque je le rappelle, c'est imaginaire. L'idée, c'est véritablement de comprendre comment vivre avec le Christ à travers l'histoire de Lazare, à travers des histoires dans lesquelles Lazare se trouve. Et Lazare rencontre une prostituée. Cette prostituée s'adresse à lui en lui disant « Tu sais, il faut accepter d'être un jour face à soi-même, et Lazare la repousse. aujourd'hui, ou en tout cas avec Lazare, de qui est-ce que nous recevons la vérité ?
Eh ben, je pense pas mal des prostituées. Je veux dire au sens large de ceux que nous méprisons beaucoup, de ceux dont nous pensons qu'ils n'ont pas la connaissance que nous avons, voire la foi que nous avons, et donc ils n'ont rien à nous apprendre. Et puis on s'aperçoit un jour que c'est tout le contraire. Moi, je dois dire que dans mon expérience personnelle, j'ai souvent bien plus appris de personnes qui étaient apparemment en dehors des clous largement par rapport à ce qu'on imagine de vie chrétienne et d'exigences morales. J'ai souvent beaucoup plus appris de ces gens-là que de beaucoup de gens apparemment bien plus sages et bien plus dignes de confiance et qui s'avéraient moins profonds, moins honnêtes, moins vrais. Moi, je me rappelle, à titre d'exemple, pour donner, je me souviens avoir accompagné, quand j'étais à Paris, un pèlerinage Fratello, qui était un pèlerinage de gens pauvres que le pape François avait invité à Rome. C'était en 2016, si ma mémoire est bonne. 5000 personnes pauvres, donc, qui étaient là de différents pays d'Europe et que le pape a rencontré pendant 3 jours pour leur prêcher une retraite. C'était ça l'idée du truc. Et donc, il y avait dans le groupe de Paris beaucoup de gens de la rue et puis aussi un certain nombre de femmes qui étaient prostituées. Et un jour, pendant ce pèlerinage, au déjeuner, je me retrouve dans une pizzeria attablée avec un groupe, et dans un groupe notamment de prostituées, hommes, femmes et transsexuels. Et on discute et on parle. Ils étaient très touchés de ce qu'ils vivaient avec le pape depuis 24 heures. Et puis, une de ces femmes me dit, ben voilà, moi je me suis confessé hier, j'étais tellement heureuse de pouvoir communier ce matin, ça fait des années que ça ne m'était pas arrivé, etc. Bon. Et puis 2 jours plus tard, je les retrouve à la basilique Saint-Pierre où le pape présidait la messe de conclusion du pèlerinage. Et je la vois, elle avait été sollicitée avec un petit groupe pour aller s'approcher du pape pour recevoir la communion. Et je la vois donc passer devant moi et puis je la vois se faire bénir par le pape. Donc ne pas recevoir la communion, mais croiser les bras pour se faire bénir. Et en sortant de la basilique, je la retrouve par hasard. Puis on arrive, on se dirige vers les cars qu'on prenait pour rentrer sur Paris. Et c'est d'elle-même, elle me dit, ah là là, c'était très beau. J'étais un peu triste de ne pas pouvoir communier, mais bon, c'est comme ça. Et je lui dis, mais pourquoi tu as communié avant-hier, hier, pourquoi tu n'as pas communié aujourd'hui ? Elle m'a dit, parce que demain, je reprends le travail. Et donc là, je me dis, en fait, cette femme, elle m'a plus appris dans la relation au Christ, dans la relation à l'Eucharistie, que bien des cours de théologie sacramentale.
Lazare a un autre échange avec Jésus sur la question du passé. Vous voyez, ça rejoint l'histoire que vous racontiez, puisque Lazare a un passé difficile. Et Jésus lui dit dans votre récit, pourquoi refuser de vivre ce qui vient aujourd'hui ? Et Lazare lui répond, crois-tu qu'il suffise de dire on recommence et que tout reprenne ? C'est un peu peut-être parfois la naïveté, ou au contraire, est-ce que c'est croire à l'impossible que de vouloir et que d'essayer de recommencer une vie nouvelle, cette fois avec le Christ ?
Moi, je pense que ce qui est le plus compliqué à admettre dans nos existences quotidiennes, ce n'est pas tellement les discours sur le pardon et la miséricorde, c'est la réalité de ce pardon. C'est de penser qu'on peut, en fait, qu'on avance chaque jour qui passe, nous rapproche de la vie. Alors que dans notre tête, chaque jour qui passe nous rapproche de la mort, n'est-ce pas ? On vieillit, donc on perd des forces, des capacités, et on est fasciné et très angoissé souvent par cette perspective. Mmh. Bon. D'autant qu'elle est lointaine, alors on se dit, bon, plus elle se rapproche, plus elle est angoissante. Alors que la perspective chrétienne, c'est que chaque jour qui passe nous rapproche de la vie. Voilà. Et donc, quelque part, ça a à voir avec le pardon, c'est-à-dire que la réalité de notre vie, c'est pas qu'on est en train de se préparer à mourir, c'est qu'on est en train de se préparer à vivre. Et donc, quelque part, le pardon, il le manifeste, il nous rappelle qu'on n'est pas fait pour la mort, qu'on n'est pas fait pour les ténèbres, qu'on n'est pas fait pour être fasciné par le mal, mais qu'on est fait pour la vie, qu'on est fait pour la lumière et qu'on est fait pour lever les yeux vers le ciel.
Mais comment vous expliquez alors que nous repoussons, comme Lazare le fait avec cette prostituée, on repousse la lumière parfois ?
Parce qu'on a du mal à y croire, parce que c'est au sens propre incroyable, parce que l'expérience commune c'est quand même qu'on va tous mourir, et que la mort on ne sait pas ce qui se passe, et que personne ne peut dire de manière démontrable, mathématique, scientifique, ce qui se passe après la mort.
Je croyais que vous alliez me dire personne n'en est revenu, mais vous nous racontez l'histoire de Lazare.
Oui, compliqué. Puis, non, mais vous voyez, donc en fait, on sait. Alors, il y a ce que notre espérance peut nous faire espérer, ce que notre foi peut nous faire croire. C'est très important. Mais ultimement, on est très désemparé devant cette réalité-là. Voilà. Et donc, c'est cette difficulté à croire véritablement que nous sommes vraiment faits pour la vie qui parfois nous retient d'oser espérer et d'oser croire que nous pouvons être pardonnés quelque part ou que nous pouvons pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal. Parce que le pardon, il est la clé qui réouvre les vannes de la vie. Le pardon, il est ce moyen qui permet à la vie de couler de nouveau, de jaillir de nouveau. Vous voyez ? Et donc, parfois, on s'abstient du pardon, on n'y arrive pas parce qu'on se dit de toute façon, à quoi bon ? En fait, c'est la phrase la pire qui puisse exister dans nos vies. C'est à quoi bon ? Pourquoi aller demander le pardon à quelqu'un ou à Dieu, alors que je sais que je recommencerai à nouveau ?
Mais aussi parce que ça nous coûte.
Mais ça nous
ça
coûte
nous
parce
arrache.
Que, oui, ça nous arrache, mais parce que fondamentalement, on sait aussi, notre expérience humaine sait que c'est bien que, quelque part, on est incapable de ne pas pécher. On est incapable de ne pas faire le mal. Et donc c'est ce tiraillement intérieur. C'est ce que saint Paul résume à sa manière en disant « Qui me libérera de ce drame intérieur que je vis et qui consiste à m'empêcher de faire le bien que je voudrais faire et à faire le mal que je ne voudrais pas faire ?» Voilà. Et qui me libérera de ça ? Paul, il le dit, c'est le Christ. Voilà. Et il le dit, il le croit, il l'annonce et il le vit. Bienheureux ceux qui le vivent, ceux qui le croient et ceux qui l'annoncent.
Merci beaucoup, Benoît Tinetti. À demain.